Vous êtes sur RTL.
Alors, c'est-à-dire que, en fait, c'est une période où on ne sait pas ce qui va se passer. Au début, on se disait que c'était une période de transition. On a fait face à la crise, c'était inédit. Là, voilà, le temps passe. Et on a l'impression de pas se sentir soutenu. On ne sait pas ce qu'il y aura plus tard. Et ça commence vraiment, vraiment à peser sur le mental des étudiants, là.
Lucas, vous vivez où ?
Alors, moi, je vis à Avignon.
D'accord. Mais vous êtes seul ou vous êtes chez vos parents ?
Ah non, je suis tout seul, j'ai mon appartement tout seul.
Oui, donc ça, vous trouvez que c'est plus compliqué ou ce serait plus facile si vous étiez chez vos parents ?
Moi, je trouve que c'est compliqué d'être tout seul parce que, en fait, on vit dans le même espace et la plupart du temps, la configuration des logements étudiants font que c'est aussi un environnement qui est propice à ce qu'on se sente seul.
Combien d'heures vous restez aujourd'hui ? J'imagine en plus que ce n'est pas une grande surface dans laquelle vous êtes.
Ah non, c'est à peine 30 mètres carrés. Donc ce qui est déjà
C'est pas mal 30 mètres carrés.
Parce que parfois,
une chambre d'étudiants, ça peut être plus petit.
Eh bien sûr.
Vous vous levez à quelle heure le matin ?
Alors moi, je me lève aux alentours de 8 heures.
Bon, les premiers cours sont donc en distanciel ?
Tous mes cours sont en distanciel.
Premier cours à quelle heure ?
8h30.
D'accord, donc de 8h30 jusqu'à
midi.
Là, vous êtes sur ordinateur.
Sur ordinateur.
Tout seul.
Tout seul.
Après, vous faites une pause à 12h30
Alors oui, en général, entre 12h et 12h30, voilà, on a le temps de manger un petit peu. Et souvent,
vous n'êtes toujours pas sorti de chez vous ?
Toujours pas. Alors justement, j'essaie moi le midi d'aller acheter du pain ou même de faire un tour. Mmh. Parce qu'on pense au couvre-feu qui arrive à 18h et il faut anticiper un petit peu.
Et vous reprenez ensuite, les cours à quelle heure ?
Entre 13h30 et 14h, c'est parti jusqu'à 17h30.
D'accord. Et là, pareil, sans pause, sans rien, concentré.
Il y a des petites pauses, évidemment. Enfin, du moins, moi, j'en ai une. Mais sinon, c'est voilà, toujours devant l'ordinateur. Et après, à 17h30, on ferme l'ordinateur. Et puis là, on peut pas sortir. On essaie de faire quelque chose d'autre, mais on sait que derrière, il y a le travail. On doit encore travailler.
Vous êtes étudiant en quoi ?
Alors moi, je suis étudiant en master de l'enseignement en histoire géo. Je prépare le CAPES.
Bon, là, dans la journée telle que vous venez de me la décrire, vous n'avez rencontré personne.
Personne.
Mais c'est tous les jours. Par exemple, aujourd'hui, vous n'avez rencontré personne depuis ce matin. Et là, il n'est que 13h.
Ah oui. Aujourd'hui,
hier, vous avez vu un ami ou une amie ?
Oui.
Donc vous aménagez quand même des plages horaires où vous pouvez voir des potes,
c'est-à-dire qu'on est obligé, parce que sinon vraiment là ce serait vraiment intenable.
Alors quand est-ce que vous les voyez ?
On essaie parfois le midi, ou bien par exemple j'ai un copain à moi qui est aussi en visio, je lui dis écoute, viens à l'appartement, tu suis ta visio, mais on la suit ensemble.
Ouais, voilà. Évidemment, moi ce que je comprends, donc il y a évidemment aucun dîner du lundi au vendredi entre amis, il y a rien du tout de
Ah non.
Et alors pardonnez-moi, je suis indiscret, mais c'est le jeu d'être indiscret. Vous avez un ami ou une amie ? Une petite amie ou un petit ami ?
Oui. J'ai une copine.
Bon, que vous aviez rencontré avant l'épidémie ou durant l'épidémie ?
Ah non, je l'ai rencontré avant, pendant ma licence d'histoire à Caen.
Oui, parce que c'est plus facile de rencontrer quand des bars sont ouverts, quand des cafés sont ouverts, quand des cinémas sont ouverts, que dans cette situation, parce que c'est très dur de rencontrer des gens aujourd'hui.
Ah bah oui.
Mais cette amie, elle est où ? Elle est à Caen ?
Non, elle est à Bordeaux.
Ah oui, donc, et vous êtes dans le Vaucluse ?
Voilà, à Avignon.
Bah oui, donc c'est pas très pratique. Vous voyez quand ?
Non. On essaie de se voir parfois quand on essaie de se dire, parce qu'elle fait le même parcours que moi. On se prend une semaine où moi je vais chez elle et on suit les visios à deux, c'est-à-dire qu'elle a le même emploi du temps que moi. Ou alors parfois on compte aussi sur les vacances ou sur des week-ends.
Mais vous pourriez vivre ensemble, par exemple ? Ça poserait pas de problème avec vos cours puisqu'ils sont en distanciel ?
Si. Ça poserait un problème. C'est-à-dire que on deviendrait une espèce de grande plateforme téléphonique. Ce serait pas tenable. Et puis même pour notre vie de couple, je veux dire, ce serait impossible. Mais même sans parler des relations amoureuses, les relations amicales. Moi, vous voyez, dans ma promotion, cette année, on a eu le temps de se voir entre septembre, octobre, et après, voilà, on est tous passés à distance. Donc, il n'y a même pas possibilité de tisser du lien social, d'apprendre à connaître les gens, parce qu'on est tous devant l'ordinateur comme des robots.
Est-ce que vous brisez de temps en temps le couvre-feu ? Est-ce que vous êtes de temps en temps dans l'illégalité ?
Honnêtement, non, c'est très rare, parce que, étant donné que toutes les boutiques sont fermées, on n'a aucune raison de sortir.
Bah, ça serait par exemple un pote qui vous invite le soir à dîner ou à passer un moment.
Non, parce que je vais vous dire que le statut des étudiants est déjà assez précaire et dans mon cas, ça l'est. Mmh. Et à risquer 135 euros d'amende, vraiment, ça vaut pas la peine.
Bah, Lucas, c'est formidable le témoignage que vous avez et incroyablement éclairant pour ceux qui nous écoutent. Alors après, ce qui m'agace, moi, c'est quand j'entends des gens d'un certain âge dire « Ah, ils ont pas fait la guerre. Nous, on a fait la guerre de 40. » Il y a plus de vétérans de la guerre de 14, mais il y a également ceux qui disent « Ah ben non, mais nous, on a fait l'Algérie, on est parti 24 mois, 36 mois, en 60, sur un territoire français, pour faire une guerre qui n'avait pas encore son nom, d'ailleurs. » Quand vous entendez ça, Lucas, comment vous réagissez ?
Ben, moi, je pense qu'il faut vivre aussi avec son temps et arrêter de toujours prendre la guerre comme baromètre du mal-être. Oui, la guerre, c'était compliqué. Et oui, c'est sûr, par rapport à la guerre, par rapport aux conditions, aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Mais aujourd'hui, des gens souffrent et souffrent quand même, je suis tenté de dire. Et il faut arrêter de s'identifier à ça comme ça tout le temps. Et parce que ça devient désagréable.
Bah merci en tout cas, Lucas. Vraiment, c'était merci très très éclairant que ce témoignage. Vous allez peut-être rester avec nous parce que Arthur et Victoire sont là. C'est drôle d'ailleurs parce que c'est vraiment des prénoms de gens qui ont 20 ans. Arthur, Victoire, Lucas. Ça nous change. Parfois, on a souvent Jean-Claude, René.
Pascal.
Oui, Pascal, bien sûr. Il n'y en a plus de Pascal. Il n'y a plus de Pascal de 20 ans. Comment ça va, Grégory Caradani ?
Ça va, merci.
Vous fûtes étudiant vous-même ?
Oui, il y a quelques années maintenant. Bon. Moins que vous, mais quelques années quand même.
Je croyais que vous nous aviez préparé cette petite musique que j'aime tant, l'étudiante de Claude Pinotto.
Évidemment, elle est prête.
Oh, t'es jolie. Ça, c'est du Vladimir Kosma, ça. Ça se reconnaît. Ouais, ça se reconnaît dans... Non, c'est une gamme majeure.
Wow.
Dans le do majeur, ça se reconnaît. 13h09, à tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Laurent Tessy, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Pour venir en aide aux étudiants en difficulté, RTL et le groupe M6 organisent aujourd'hui une journée de solidarité en association avec le Secours Populaire Français. Vous êtes étudiants, nous attendons vos témoignages. Racontez-nous vos difficultés, votre quotidien depuis le début de la crise sanitaire. Avez-vous le sentiment d'être les grands oubliés ? Le youtubeur Gaspard G, 23 ans, était l'invité d'Yves Calvi ce matin. Il parle de détresse mentale chez la plupart des étudiants.
Moi je dirais que les étudiants vont pas bien, ouais. Et puis d'ailleurs c'est un terme qui est utilisé un peu partout dans la presse aujourd'hui en France. Une santé mentale qui est en chute libre pour la plupart des jeunes de 18 à 25 ans qui suivent des études.
Le gouvernement est-il pour vous à la hauteur ? On sacrifie notre jeunesse, déplore Hélène sur la page Facebook RTL, les auditeurs à la parole. On parle de l'avenir de notre pays. La période, c'est vrai, difficile, rajoute Bernard. Moins de sorties, moins de rencontres, plus de petits jobs. Véronique a une fille en fac d'histoire. Elle galère à trouver un petit travail à côté. Cette crise joue sur son moral. Aurélie, justement, est étudiante. Je ne veux pas nous opposer avec d'autres générations, mais payer son loyer, remplir son frigo avec ses courses quand on a très peu de rentrée d'argent, oui, c'est très compliqué. Et si vous faites partie d'une association, si vous voulez aider toutes celles et tous ceux qui sont en difficulté, appelez-nous dès maintenant au standard.
Et il est 13h11, on était donc avec Lucas, on va être avec Victoire qui habite Aix-en-Provence, qui a 19 ans, qui a sans doute écouté le témoignage de Lucas. Bonjour Victoire.
Bonjour Pascal.
Je vais poser les mêmes questions que j'ai posées un peu à Lucas, et notamment, vous êtes seule aujourd'hui ?
Alors moi aujourd'hui je suis chez mes parents avec ma petite sœur, donc je suis pas totalement seule. Bon, je suis toute la journée seule parce que mes parents travaillent et ma petite sœur rentre du coup avec mes parents le soir pour le couvre-feu. Mais sinon je maintiens quand même un lien avec mes parents, mais c'est vrai qu'autour de moi la solitude est extrêmement présente.
Votre phrase est drôle quand même. Je maintiens un lien avec mes parents, vous vivez chez eux.
Non, mais c'est le seul lien, du moins, que je maintiens, ce que je veux dire.
C'est le seul lien, comment ça ? Bon, en tout cas, est-ce que vous trouvez que c'est plus facile de vivre chez vos parents et avec votre petite sœur, si j'ai bien compris, ou d'être comme Lucas, isolé ?
Ah non, c'est plus simple ce que je vis, carrément. Après, autour de moi, je vois toutes les personnes qui sont dans la solitude. Voilà, je me sens totalement privilégiée si je compare avec mon entourage.
Nous sommes d'accord, mais vous avez le sentiment que c'est difficile sur le plan financier.
Alors pour le plan financier, c'est super compliqué. Par exemple, des choses qui peuvent paraître toutes bêtes, mais là, par exemple, on a repris donc à 20% en présentiel, comme il a été demandé donc par le gouvernement. Et sauf que c'est super compliqué au niveau logistique parce que on doit se déplacer souvent, par exemple, une après-midi ou pour 3 heures. Et donc toutes les personnes qui ont rendu leur appartement. Et donc, soit ils doivent jouer des Airbnb, soit ils doivent faire un aller-retour parce qu'ils habitent à Lyon, à Lille ou encore à Bastia. Et sinon, par contre, les personnes qui ont gardé leur appartement restent dans leur appartement, qui essayent donc du coup de payer ce loyer pour être là une demi-journée dans la même ville que leur université, quoi. Donc, c'est vrai que financièrement, c'est déplorable. Et après, moi, je salue tous les commerçants qui mettent en place des épiceries pour de façon bénévole pour tous ces étudiants, parce que c'est vrai que sans ça, je pense qu'il y en a beaucoup qui devraient abandonner leurs études, retourner chez leurs parents. Enfin, ça serait encore plus déplorable que voilà. Donc je salue vraiment l'entraide qui est faite autour des étudiants.
Avec Lucas, on imaginait comment se passe la vie sociale et il nous disait que il n'y a pas évidemment de soirée, il n'y a pas de dîner, qu'il respectait à 100% le couvre-feu, qu'il voyait personne, etc. Est-ce que c'est votre cas ?
Alors bah oui, alors en plus j'habite un peu loin dans la campagne, donc oui carrément, tous mes amis souvent donc sont dans leur ville respective ou dans leur appartement, donc comme disait Lucas, on va pas risquer 135 € d'amende par exemple pour lutter contre le couvre-feu, mais la vie sociale est vraiment mise sur pause depuis maintenant un an, mais du coup 2 années universitaires, c'est vrai que souvent on s'en rend pas compte, mais ça va être la 2e année qui est touchée, et la vie sociale, amoureuse, comme disait Lucas, ouais, c'est mise sur pause depuis un moment.
Ben merci Victoire pour ce témoignage. C'est vrai que ça va être intéressant d'écouter tous ces étudiants. Arthur est là également, qui habite dans les Alpes-Maritimes. On a beaucoup d'étudiants qui sont du sud de la France. Bonjour Arthur.
Bonjour Pascal, merci de me prendre en ligne.
Arthur, vous vivez seul ou vous vivez encore chez vos parents ?
Alors, je vis seul. Pendant le couvre-feu en octobre, je suis retourné chez ma mère. Pendant le second confinement, pardon. Là, je viens de reprendre un appartement avec ma copine.
D'accord. Mais est-ce que vous trouvez que c'est une solution qui est meilleure que de partager, même dans des conditions parfois difficiles, j'imagine, de proximité. J'imagine que l'appartement n'est pas très très grand. Et puis que surtout, vous ne pouvez pas sortir.
C'est 36 mètres carrés, donc
donc ça va.
Oui, ça va, je ne suis pas à plaindre. À titre personnel, je préfère vendre l'appartement. Après, je vis avec ma copine aussi. Donc c'est la raison pour laquelle voilà, j'ai pris cet appartement aussi. Donc voilà, moi c'est ce que je disais à votre programmiste, j'ai un peu du mal à me positionner ou à me sentir légitime quelquefois par rapport à cette situation des étudiants. Ça dépend des moments en fait, parce qu'au début de l'année universitaire, j'avais un job étudiant que j'ai perdu suite à la situation sanitaire. J'ai dû rentrer chez mes parents, donc financièrement je ne m'y retrouvais pas du tout. L'enseignement à distance, j'ai eu du mal à m'y faire. Mais malgré tout, le fait de revenir chez moi, ça m'a permis de pouvoir retrouver un travail à temps plein. Donc, quelque part, j'ai eu cette chance que pas tous les étudiants ont. Mais voilà, en ce qui me concerne, ça a pu avoir ce point positif de pouvoir trouver un travail à temps plein. Donc, ça se répercute un peu sur le temps que je passe à étudier. Mais avec un peu d'organisation, j'arrive à m'en sortir pour l'instant. Donc, c'est pour ça que j'estime ne pas être à plein, mais je ne fais pas partie des étudiants qui habitent en résidence universitaire dans un 9 mètres carrés qui, de 8h à 18h, sont devant leur ordinateur. Moi, je peux gérer mon temps, j'ai plus d'espace que ça, donc sur ce point-là, je ne peux pas vraiment m'exprimer au nom des étudiants qui vivent ça.
Mais vous avez le sentiment, alors pardonnez-moi, je vais poser une question qui peut surprendre, mais et qui peut même surprendre ceux qui ont un certain âge et qui nous écoutent, est-ce que vous avez le sentiment de vivre la période la plus dure de votre vie ?
Pas vraiment, pour les mêmes raisons que je viens de vous évoquer. Moi j'habite dans le sud de la France, donc on n'a pas le climat le plus désagréable, on a de l'espace. Non.
Donc ça va, c'est rassurant. Et d'ailleurs, puisque Lucas est toujours là, j'ai oublié de poser cette question. Lucas, je vous pose la même question. Est-ce que vous avez le sentiment de vivre la période la plus dure de votre vie ?
Oui, je pense oui, parce que
d'accord. C'est une période... Et Victoire, je pose également la même question. Victoire ?
Bah, sur mes 19 ans de vie, oui, c'est la période la plus dure. Oui.
Non, mais ça, c'est intéressant. Vous voyez, c'est ce que vous dites, Lucas et Victoire, c'est factuel. Après, on peut ne pas être d'accord, dire c'est ridicule, c'est ceci, c'est cela. Mais voilà, deux personnes françaises, jeunes, étudiantes, qui disent aujourd'hui, c'est la période la plus difficile de toute ma vie. Alors, on pourrait dire, bah, vous n'avez pas eu beaucoup de douleurs, certains le diront. Vous n'avez pas eu beaucoup de malheurs, certains le diront. Mais vous le vivez comme ça. Donc, vous avez forcément raison pour vous, Lucas et Victoire. En tout cas, c'est elle que vous ressentez cela. On va marquer une nouvelle pause, peut-être, mais restez tous les trois avec nous. Et puis, on va essayer de, pourquoi pas, de vous faire parler avec quelqu'un d'un autre âge. Donc, et peut-être qu'il ne sera pas forcément d'accord avec tout ce que nous avons dit. À tout de suite.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
On a un trio magique. Lucas, 21 ans. Arthur, 22 ans. Victoire, 19 ans. Et on a François, qui habite Orbec, qui nous appelle parfois d'ailleurs, qui a beaucoup d'enfants, oui, je crois, et beaucoup de petits-enfants. Donc, qui est peut-être sensible à la détresse des étudiants ou pas. François, bonjour.
Bonjour Pascal.
Qu'est-ce que vous avez pensé du témoignage de Victoire, Arthur et Lucas ?
Ah, ce que j'ai pensé, c'est qu'en fin de compte, il montre que ce n'est pas que les étudiants qui sont oubliés, c'est la jeunesse qui est oubliée. Parce qu'aujourd'hui, on focalise sur les étudiants. Toute la problématique aujourd'hui de votre émission, c'est les étudiants sont-ils les grands oubliés de la crise ? Mais c'est la jeunesse entière qui est oubliée de la crise. Et cette jeunesse qui souvent n'est pas dans les facultés et qui voudrait un contrat d'alternance et qui ne l'a pas, et qui voudrait un logement mais qui sont obligés de rester chez les parents. Et cette jeunesse complète est dans la détresse. Ce n'est pas simplement les étudiants en tant que tels.
Mais vous avez adhéré à ce qu'il disait. Vous n'avez pas trouvé que leur plainte était exagérée, par exemple, ce que j'entends parfois auprès d'un public plus âgé.
Alors, je ne vais pas dire que leur plainte est exagérée, parce qu'elle est réelle, parce que leur douleur est la leur, et puis qu'on ne peut pas qualifier la douleur des autres par rapport à ce que nous, on ressent. Une douleur est tellement personnelle que même dans la détresse sociale, on peut trouver un grand malheur. Et ces jeunes-là, ils avaient une vie avant qui n'était pas celle qu'ils vivent aujourd'hui. Et donc, je peux comprendre leur détresse. Mais il faut se mettre aussi dans l'idée qu'il n'y a pas que les étudiants en tant que tels. C'est ça qui est un peu énervant.
Oui, alors aujourd'hui, vous avez raison, c'est les étudiants qui sont en difficulté. Mais effectivement, on aurait pu élargir aux jeunes. Sauf que les jeunes, parfois, il y a peut-être des jeunes gens qui ne sont pas étudiants et qui ont la chance de travailler. Là, qui est compliqué, c'est la phrase de Pascal, quoi. Le malheur de l'homme, c'est qu'il ne peut pas rester tout seul dans sa chambre. Donc quand tu es tout seul, toujours, tout le temps, un peu prisonnier sur ton ordi et qu'il n'y a pas de contact social, tu peux trouver le temps long.
Oui, bien sûr, mais je le comprends, parce que pour la bonne raison, c'est que moi j'ai une petite fille qui est enfermée dans sa chambre chez ses parents à 40-50 mètres de chez nous, et elle fait ses cours comme ça par ordinateur, et quand elle a voulu un contrat d'alternance, eh bien elle est encore en train d'attendre, parce qu'on lui dit, oh bah pour l'instant on attend, on ne sait pas dans quel sens ça va fonctionner, si la crise va venir à aboutir, donc elle est toujours dans sa chambre, donc la douleur elle est réelle, et puis j'en ai un autre petit-fils, lui il voulait une formation de barbier coiffeur, mais au moment où il a voulu lancer sa formation, c'était au moment du confinement, donc ça a été refusé, et aujourd'hui il travaille chez un opérateur téléphonique, et j'en ai un troisième qui voulait être soigneur animalier et s'est retrouvé dans un magasin de grande distribution, parce que ils ont compris que malheureusement il fallait aller aussi vers eh bien peut-être une forme autre d'apprentissage pour ne pas penser qu'il n'y avait que les études qui pouvaient mener à quelque chose de bien. Et ça, les études aujourd'hui, ben, c'est la preuve que la France n'a pas pris la mesure de la gravité de la situation. Et quand on a entendu le président dire « quoi qu'il en coûte », mais le « quoi qu'il en coûte », il ne faut pas que ça devienne un « quoi
an,
que
hein.
ça coûte sur le... ». Oui, mais il y a un
an.
Il
y a un an.
Et ça fait un an que ça dure.
Léonore est là.
Voilà.
Restez avec nous, hein, évidemment. Léonore est là et Léonore, c'est Léonore, c'est pas Éléonore, hein, c'est Léonore.
Léonore,
j'y tiens. Vous avez bien raison d'y tenir parce que c'est un très joli prénom. Vous êtes étudiante, vous habitez Tours, vous êtes en master de droit. Donc pour qu'on comprenne d'abord votre situation, est-ce que vous êtes chez vos parents ou est-ce que vous êtes seule ?
Alors, moi, j'ai de la chance parce que j'habite dans la même ville que mes parents. En fait, j'ai pris un appartement cette année et du coup, ils habitent pas loin de chez moi. Donc,
ah oui, ça, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est-à-dire que l'avantage des parents sans les inconvénients.
Voilà, exactement.
Donc ça c'est pour le linge, on rentre à la maison faire son linge, exactement. On rentre faire repasser, on rentre un petit peu dîner quand on n'a plus trop d'argent, et puis quand on s'ennuie un petit coup de blues, on va faire un câlin à maman. Exactement. Donc ça c'est, alors vraiment Léonore, je connais l'affaire, ça c'est ce qu'il y a de mieux. Bon, donc pour vous ça se passe pas trop mal.
Ça dépend des jours, ça dépend des jours quand même, mais voilà, je suis pas du tout la plus mal, voilà, c'est sûr.
Bon, et pour les cours, ça se passe comment? Vous êtes en présentiel tout le temps? Est-ce que c'est rude d'être concentrée toute une journée, toute seule, face à son ordi?
Bah voilà, moi c'est ça ce que je voulais dire. Bah déjà, j'étais d'accord avec Lucas, hein, quand il décrivait sa journée, c'était à peu près la journée que je vis aussi, quoi. C'est 8h midi en cours, 13h30, 17h30 en cours, et du coup après bah on n'a pas le temps de sortir, on n'a pas le temps de faire ses courses tranquillement parce qu'il est déjà 18h et que du coup on n'est pas sorti, on n'a vu personne. Mais je voulais quand même dire aussi que ces derniers jours, je trouve qu'il y avait eu quelques petites améliorations par rapport à la situation des étudiants. Bah déjà, moi je sais pas pour les autres, mais il y a un retour à la fac pour les TD. Du coup, bah, ça permet de voir ses profs, ses étudiants deux fois par semaine quand même. Donc,
de ce point de vue-là, vous préférez. Et quoi, vous préférez, c'est un moindre mal. Question, alors, pardonnez-moi, elle est indiscrète ma question, Léonore, mais comment vous faites pour draguer en ce moment?
Alors, comment je fais pour draguer? Eh ben, j'ai de la chance, encore une fois, donc je rigole parce que j'ai un copain, donc je n'ai pas besoin de draguer.
Mais, vous avez un copain, pardon, qui adore draguer?
Non, j'espère pas.
Ah, vous avez un copain, pardon. Ah, donc vous n'avez pas besoin de draguer parce que vous avez un copain.
Voilà.
D'accord. Et ce copain, vous l'aviez rencontré avant l'épidémie ou il est arrivé pendant?
Oui, ah ouais. Je l'ai rencontré avant.
Donc vous aviez été prudente. Bon, mais en ce moment...
Mais j'ai beaucoup d'amis, j'ai des retours de mes amis et je sais comment ils font.
Par exemple, c'est-à-dire...
ils sont à Paris, il y en a beaucoup qui sont sur Tinder et apparemment ça marche. Ça marche très bien quand même.
Oui, voilà. Mais alors, quand tu es sur Tinder, comme vous dites, et que tu es, par exemple, chez tes parents, première fois que tu rencontres une fille, tu l'emmènes généralement au bar, au cinéma, au resto, pourquoi pas, tu ne vas pas l'inviter directement chez toi si tu habites chez tes parents.
Non, c'est gênant. Non, bah, je pense que du coup,
c'est gênant, c'est exactement ça.
Une promenade, une petite bière emportée, quoi.
Bah, une petite promenade avant 18h.
Avant 18h, ouais.
C'est un problème, franchement, la drague pour aujourd'hui, pour la rencontre. Alors, quand on est adulte, ça peut aller, parce qu'on a une maison, a priori, on a un appartement, on peut recevoir l'autre. Mais quand t'es très jeune, soit t'es chez tes parents, soit tu es en colocation, soit t'es dans un petit appartement, encore ça peut aller si t'es dans un petit appartement. Non, mais ouais, c'est
une vraie problématique.
Bah oui. Est-ce que les couples se font davantage en ce moment, ou au contraire, est-ce qu'ils se font moins, à votre avis?
Je pense qu'ils se font moins, quand même.
Bon, je pose la question aussi à Victoire.
Non, ça fait beaucoup moins.
Beaucoup moins. D'accord.
Moi, j'étais avec mon copain l'été dernier. On va dire que ça s'est fait durant l'été, donc c'était bon, parce que entre deux confinements.
c'était bon moment, c'est ce que vous voulez dire.
Non, mais c'était entre deux confinements, donc du coup, ça a pu se faire. Et puis, en fait, après, le fait qu'on soit reconfiné et que moi, je sois chez mes parents, comme vous dites, bah, en fait, le fait qu'on ne pas pu se voir, ça a dû se terminer au bout de quelques mois, parce qu'on ne pouvait pas, et ça s'est terminé
d'accord.
Plutôt à part distance, quoi.
Léonore, vous avez dit un mot, effectivement, que les plus anciens ne connaissent pas forcément. Vous avez dit Tinder. Bah oui, mais vous souriez, mais Tinder, tout le monde ne connaît pas Tinder. Et Tinder, c'est une application pour un smartphone qui permet de laisser une petite annonce, c'est bien ça, Léonore?
Alors moi, je ne l'ai jamais eu, mais oui, je sais comment ça se passe. Et bon. En gros, c'est un peu comme un réseau social, ouais, c'est ça, en fait, on met une photo... Et puis on peut swiper.
Ça veut dire quoi, voilà, swiper?
C'est-à-dire balayer avec son doigt, quoi. Enfin, si quelqu'un qu'on trouve beau, ben on appuie sur le profil, quoi, en gros. Et si l'autre a aussi appuyé, ben ça fait un match.
Donc c'est comme ça qu'on se rencontre sur Tinder.
Bon, enfin, vous faites mine de ne pas connaître, mais vous connaissez ça parfaitement, Pascal.
Alors je vais vous dire un truc, puisque vous en parlez. D'abord, je suis évidemment pas sur Tinder, mais hier soir, ma fille qui a 20 ans est venue dîner avec son papa. elle a fait des spaghettis à son papa. Et je l'en remercie.
C'est
parce
un scandale. C'est pas vous qui le lui avez préparé.
Non, parce que je suis arrivé à 9h15, à 9h30.
Bon, d'accord.
Evie avec sa maman. Et donc, elle est venue chez son papa à deux rues. Bon. Et je lui ai dit, est-ce que t'es. Je lui ai posé cette même question. Je lui ai dit, mais comment ça se passe? Est-ce que t'es sur Tinder? Et elle m'a dit, non, je ne veux pas me faire swiper. Donc, j'ai appris hier soir le mot qui est utilisé par Léonore, swiper. C'est-à-dire, swiper, c'est le geste de la main, là, où on passe.
Balayer. Bien etc.
traduit. Donc, j'ai fait semblant de ne pas savoir ce que disait Léonore, mais je le savais. Bon, Arthur, est-ce qu'il y a moins de couples ou pas, selon vous aussi? Vous partagez ce que disent Victoire et Léonore?
Quoi donc, par rapport à Tinder?
Non, Tinder. Il y a moins de couples qui se forment, c'était ça l'idée.
Ah ben ça me paraît évident, oui. Enfin, les rencontres sont moindres, voire quasiment annulées, donc forcément, socialement, il ne se passe pas grand-chose. Hein, donc, bon.
D'accord.
Je ne pense pas que ce soit le meilleur moment pour créer de parents, c'est sûr.
Bah écoutez, merci hein, vraiment Léonore, Victoire, Arthur, Lucas, vous restez encore avec nous et on va accueillir Salomé, c'est que des prénoms des gens qui ont 20 ans, alors qui habitent Paris. Bonjour Salomé.
Bonjour.
J'ai l'impression que pour vous la situation est un peu plus dure que pour celle de nos amis quand je lis votre fiche.
Oui, c'est ça. Alors, j'ai pas forcément pu entendre peut-être le début de l'émission, mais oui, en effet, la situation elle est assez compliquée pendant ce confinement. Mis à part les histoires de drague qui sont, oui, certes, compliquées, mais il y a aussi tout le côté quand même précarité économique qui touche beaucoup d'entre nous, et donc c'est compliqué tous les jours, quoi.
Est-ce qu'il y a des problèmes financiers pour vous?
Oui, bien sûr, tous les jours, enfin tous les mois, je ne sais pas comment je vais finir le mois, clairement. Dès le début du mois, il y a beaucoup de choses qui partent sur mon compte d'office, genre ma carte Navigo et ma mutuelle. Donc après, il ne reste pas grand-chose. Et donc, s'il n'y avait pas les aides du Crous et les distributions alimentaires, et même mes parents, du coup, qui ont recommencé à m'aider, je ne sais pas forcément comment je ferais tous les jours.
Vous êtes à Paris, hein, vous êtes,
oui, à Paris, ouais.
Vous préparez quel diplôme?
Je suis en droit à Paris 1.
Paris 1, vous êtes en quelle année?
En L2.
Vos parents sont en dehors de Paris, si je comprends bien?
Oui, enfin non, mon père habite à Paris, ouais.
Donc vous vivez avec lui quand vous êtes à Paris?
Non, là, je vis chez mes grands-parents.
D'accord.
Qui habitent à Paris aussi.
Donc ça, c'est bien déjà, parce que vous avez quand même un point de chute?
Oui, bien sûr. Bon. Oui, c'est ça qui fait que, ouais.
D'habitude, par rapport à la situation d'habitude, vous pouvez faire des petits boulots et en ce moment, vous pouvez peut-être pas les faire?
C'est ça. Bah, en fait, avant, je gardais des enfants. Bon, je continue à le faire, mais je gardais souvent des enfants le week-end, le soir, en plus de dans la semaine. Sauf que du coup, la garde le week-end s'est arrêtée. Du coup, ça a vraiment divisé par deux ce que je gagne par mois, quoi. Donc forcément, déjà que c'était pas beaucoup...
Est-ce que c'est possible de nous dire le budget dont vous disposez, l'étudiante que vous êtes, sachant que vous êtes chez vos grands-parents, donc il n'y a pas de loyer, mais de quel budget vous disposez par mois?
Alors par mois, j'ai 270 euros avec mes babysitting. Et avec ça, donc certes, je n'ai pas le loyer. Par contre, à chaque fois, il faut enlever, genre, ma mutuelle, je la paye 25 euros, le pass Navigo, je le paye 32 euros, enfin, plein de dépenses comme ça qui font qu'à la fin du mois, pour manger, il ne reste pas grand-chose, quoi.
Oui, mais vous êtes chez vos grands-parents, vous me dites?
Oui, je suis chez mes grands-parents, par contre, je participe aux courses, du coup, parce que quand même, je ne fais pas de loyer, mais je participe à ça, et quand je suis dehors, il faut bien que je mange aussi, quoi.
Bah, vous pouvez peut-être négocier avec vos grands-parents, quand même, que pendant l'année d'études, ils vous invitent à déjeuner et dîner.
Oui, ils le font, par contre, c'est vrai que je sais que pour eux, ils sont retraités, c'est pas non plus facile pour
eux. C'est dur pour eux aussi, d'accord. Bon, bah écoutez, merci, Salomé, ça aussi, c'est encore un témoignage. Margot est là aussi. Bonjour Margot. Il y a beaucoup d'étudiants qui nous appellent. D'ailleurs, c'est vraiment intéressant d'écouter tous ces témoignages. Bonjour Margot.
Bonjour.
Et merci. Alors, vous êtes un peu plus âgée.
C'est ça.
Vous êtes en fin d'études.
Exactement. Fin d'études d'ingénieur, oui.
Bon. Vous avez 28 ans.
Exactement.
C'est la dernière année d'études?
Oui, je suis en stage de fin d'études, là.
Ah, vous avez quand même réussi à trouver un stage?
Oui, j'ai trouvé un stage. Bon, c'est toujours un peu compliqué, mais avec le télétravail, on a réussi à... L'entreprise s'est très bien adaptée, donc ça a été plus facile.
Bon, comment vous vivez cette situation et quelle est votre morale? C'est la question récurrente depuis 13 heures.
Alors, la situation, je pense, est compliquée pour tout le monde. C'est pas évident, même quand on est en stage de fin d'études, puisque ben, forcément, les conditions de stage et le télétravail, c'est pas facile pour tout le monde. Mais c'est vrai qu'on essaye de s'organiser pour que ça aille, en fait, tout simplement.
Oui, mais alors, ça veut dire quoi, s'organiser pour que ça aille? Par exemple, quels sont les trucs?
Eh ben, tout simplement, en fait, moi, j'étais sur Clermont-Ferrand il y a peu, et on a créé une association sur Clermont-Ferrand qui, pendant le premier confinement, au tout début, permettait de lutter contre l'isolement des personnes vulnérables isolées. Et en fait, on s'est rendu compte, tout simplement, que l'isolement n'était pas aussi que au sein des personnes âgées isolées, mais que aussi les jeunes, de par les réseaux sociaux, Internet. Et en fait, on a développé notre association pour arriver à recréer du lien au sein des territoires. Et donc, en fait, on crée des espèces de parrainage entre des personnes isolées, âgées, des jeunes, etc. Parce que dans les temps vers lesquels on va, on a tout intérêt, je pense, à recréer du lien sur les territoires.
Mais merci Margot, on va marquer une pause et puis on va poursuivre cette conversation ensemble. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
À 13h37, je pense qu'on arrive au bout de notre discussion avec les étudiants. C'est d'ailleurs très intéressant, Laurent Tessier. Il y a d'autres sujets aujourd'hui.
Oui, nous attendons sur d'autres thèmes au standard. Faut-il instaurer le vote par anticipation pour la présidentielle de 2022? Le gouvernement a déposé hier au Sénat un amendement, un texte sur l'organisation technique du scrutin. Il prévoit le vote par anticipation dans certains bureaux via une machine à voter durant la semaine qui précède le scrutin. Fabien Roussel, le secrétaire national du Parti communiste français, était l'invité ce matin d'Alba Ventura.
Je découvre hier qu'il y a un amendement qui tombe du ciel du gouvernement mettant en place un tel dispositif dont je connais rien, rien du tout. Vous savez, quand on touche à un mode de scrutin, et en plus le scrutin de la présidentielle, ce qui est bien, ce qui se fait en démocratie normalement, peu, hein, c'est d'en parler avant.
Et donc vous assumez quoi, que c'est suspect?
Ben, quand on ne sait rien, c'est qu'il peut y avoir toutes les magouilles possibles derrière, à un an d'un scrutin présidentiel.
Le vote par anticipation est-il un bon moyen de faire baisser l'abstention? Sandra parle de magouilles en perspective sur nos réseaux sociaux. Rendons plutôt le vote obligatoire, ajoute José. Pour Rado, c'est un bon moyen d'inciter les électeurs à se déplacer pour voter et les laisser tranquilles le dimanche. Et vous, qu'en pensez-vous? 32-10. Peut-on encore regarder les films avec Richard Berry? Un téléfilm avec l'acteur a été déprogrammé de France 3 vendredi dernier. On rappelle qu'une enquête préliminaire a été ouverte fin janvier après une plainte déposée par la fille aînée du comédien Colin. Elle dénonce des faits de viol et agressions sexuelles sur mineurs. Richard Berry a démenti ces accusations, mais en déprogrammant un film, est-on en train de remettre en cause la présomption d'innocence? Comprenez-vous cette décision? Laissons faire la justice, demande José à l'instant sur la page Facebook RTL. Les auditeurs ont la parole. On juge avant les tribunaux, critique Micheline. Que fait-on de la présomption d'innocence, rappelle Gilles? Eh bien, nous attendons vos avis dès maintenant au standard 3-2-1-0.
Allez, encore un ou deux étudiants peut-être, et après, effectivement, on changera de sujet. Aurore
oui,
de Nevers. Non, Aurore
non,
de Paris.
De Paris.
C'est qu'Aurore de Nevers, c'est dans le Bossu. Aurore de Nevers. Bon, c'est un joli prénom, Aurore.
Oui.
Bon, vous êtes.
C'est
contente. Oui, c'est joli. Vous êtes étudiante à Sciences Po?
Oui, à Sciences Po Paris, tout
le vrai Sciences Po de la rue Saint-Guillaume?
Oui, au 27.
Et là, vous avez 18 ans?
Oui, tout à fait.
Donc là, vous êtes plutôt brillante, alors, parce que pour intégrer directement Sciences Po, sortir du bac, c'est pas facile.
On a travaillé pour.
Non, mais vos parents doivent être fiers de vous.
Oui.
Bon.
Tout à fait.
Alors, d'ailleurs, c'est chaud actuellement à Sciences Po. Je ne sais pas si vous faisiez partie des étudiantes qui avaient réclamé la démission de Monsieur Mion.
Oui, tout à fait. J'avais été manifestée devant Sciences Po et je fais partie d'une association féministe. Donc on a eu pas mal de témoignages.
Bon, le premier semestre donc a été difficile à Sciences Po, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de présentiel.
Alors, initialement, il était censé y en avoir, mais comme il y a eu, en fait, très rapidement des soirées étudiantes, comme beaucoup d'étudiants avant le nouveau confinement, il y a eu des clusters, et donc ils ont décidé de fermer Sciences Po. Et ça a réouvert quelques jours, mais en tout et pour tout, au premier semestre, j'ai dû aller 5 fois à Sciences Po.
Et comment vous avez vécu cette période?
Très mal.
Et ça se concrétisait comment?
Alors parce que moi je suis nouvellement arrivée à Paris, donc je connaissais personne. Et du coup j'ai pu rencontrer quasiment personne. Et surtout la charge de travail était aussi conséquente que ce qui se faisait quand on était en présentiel. Sauf que là, on était en distanciel et c'était pas trop... Ben, on n'était pas habitué à ça, quoi.
Vous arrivez d'où ?
Alors, je viens de Bretagne, du Morbihan.
D'accord. Et là, vous habitez donc dans Paris ? Vous avez réussi
oui.
à trouver... Oui,
oui, oui.
Donc, vous avez trouvé Paris. Un petit appartement ou une chambre ?
Non, alors, oui, un appartement de ce côté-là. C'est vrai que niveau logement étudiant, je ne suis pas forcément la plus à plaindre, heureusement. Mais par contre, la souffrance psychologique est la même pour... elle est peut-être plus intense pour certaines personnes, mais on en souffre tous.
Ça passe mal, là, horreur. Je ne sais pas, vous avez bougé ou pas ?
Non, pas du tout.
Bah, c'est curieux parce que je ne sais pas si on sécurise la ligne ou pas. Est-ce qu'on rappelle Aurore tout de suite ou est-ce que continuez de nous parler, Aurore, pour voir si tout va bien ?
Vous m'entendez ?
Ah là, je vous entends bien. Ouais,
d'accord.
Mais ça a mal passé un moment. Ah donc bon. Vous êtes dans un petit studio peut-être ?
Oui, tout à bon. Fait. Oui, parce que j'ai mes parents qui viennent quelques fois. Donc voilà.
Donc ça, c'est plutôt sympa. Vos parents viennent.
Très peu.
Oui, parce que vous avez 18 ans, j'imagine qu'ils ont encore une vie professionnelle, vos parents.
Oui, tout à fait. Oui.
Bon, mais quand ce moral dans les chaussettes, si j'ose dire, il se concrétisait comment ?
Alors, à la fin du semestre, juste avant les partiels, j'ai eu deux semaines très très compliquées où tous les soirs je pleurais parce que au niveau de la charge mentale de travail, je travaillais jusqu'à 2-3 heures du matin. J'avais l'impression de pas avancer, de travailler dans le vide. Et je pense que ça, beaucoup d'étudiants le ressentent. C'est-à-dire qu'on suit les cours, mais on a l'impression de toujours être en décalé. On mémorise pas sur ordinateur. L'apprentissage n'est pas du tout le même. Et c'est tellement frustrant. Donc, ça a été très compliqué.
Alors, c'est vrai que vous cumulez. D'abord, vous arrivez pour la première année à Paris, ce qui n'est jamais facile. Voilà. C'est la première fois que vous viviez seul, j'imagine. Hein, oui. À 18 ans, vous êtes quand même très jeune. Deuxième chose, vous intégrez une école où le rythme de travail est quand même XXL, disons-le. Oui. Sciences Po, en plus, la première année, ce n'est pas facile. Nous sommes d'accord. Oui. Et troisième chose, vous tombez dans cette période de Covid. Donc, vous cumulez les handicaps qui rendent la situation difficile. Vous trouvez que ça va mieux, là, en ce moment ?
Ça va mieux parce que effectivement, là, on a au second semestre, on a commencé à revenir en présentiel. Et fin du semestre, j'ai pu plus sympathiser avec certaines personnes. On a réussi à créer une sorte de solidarité à travers les écrans. Et on a pu se voir en vrai, mais c'est vrai que c'est compliqué. Mmh. Mais bon, là, ça commence à s'améliorer, donc heureusement. Mais vraiment, ça a été très, très compliqué lors du deuxième confinement.
Et la vie amoureuse, elle est entre parenthèses ou elle est... Elle existe. Pardonnez-moi de poser cette question, mais comme c'est anonyme en plus, mais c'est intéressant pour avoir une radiographie de la vie des étudiants actuellement.
Eh bien, c'est très compliqué. C'est vrai qu'au niveau des rencontres, c'est pas forcément simple. On rencontre très peu de monde. Et pour sympathiser, c'est vrai que c'est compliqué. Ça a commencé un peu plus à s'améliorer, mais ça reste, je pense, bien en deçà de ce que ça devait être avant, malheureusement.
Bon, bah, courage, Aurore. on a commencé en disant que vous étiez dans une association féministe à Sciences Po.
Oui.
Dans les associations féministes à Sciences Po, il y a des hommes et des femmes ou il n'y a que des femmes ?
Alors, ça dépend. Alors, nous sommes une association qui accueillons les deux. Mais en l'occurrence, nous ne sommes que des femmes. Donc, mais nous accueillons les deux. Après, c'est vrai que ça dépend de l'engagement aussi qu'il y a derrière. Et là, en l'occurrence, nous ne sommes que des filles.
C'est bien de parler avec des gens de 18 ans qui incarnent une nouvelle génération, une nouvelle manière de voir le monde. C'est quoi le combat numéro un pour la jeune féministe que vous êtes, Aurore ?
Se faire entendre, essayer de changer les mentalités. Parce que c'est vrai que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui disent en ce moment on parle que de ça, c'est bon, on a fait beaucoup de choses, etc. Mais le combat est jamais gagné. Et c'est surtout qu'il y a beaucoup de régressions.
Mais par exemple, parce que moi ce que j'aime c'est toujours les exemples. Sur quel sujet précis vous trouvez qu'il y a des régressions ?
Alors au niveau de la culture du viol, c'est vrai que il y a des personnes qui partent du principe que vu qu'on en parle, tout est réglé. Mais non, c'est la première étape. C'est-à-dire que maintenant, il faut que les gens prennent conscience. Et ça, c'est pas gagné encore. Et ça se fait sur des générations. Et malheureusement, ça se fait pas en un clin d'œil.
Et vous trouvez que la culture du viol, par exemple, elle est présente dans la société française ?
Oui.
Et à travers, par exemple, quel exemple récent qui...
Alors, à la fois par des expériences personnelles, j'ai vécu du slut-shaming, donc effectivement, la culpabilisation par rapport à certaines situations personnelles. Et ça se retrouve, mais on peut demander à n'importe quel jeune, il connaîtra une personne qui a subi ce genre de choses. Les humiliations, les rumeurs, faut être...
Et vous trouvez qu'elles sont uniquement, dirigées vers des femmes et que jamais ce n'est dirigé vers des hommes ?
Bien sûr, mais alors après, c'est la question de tout ce qui est intersectionnel et aussi des personnes, des homosexuels, de la transidentité. On peut cumuler les discriminations, j'ai envie de vous dire, malheureusement, de manière infinie. Et ça, c'est pas gagné.
Bah merci Aurore, hein, vous n'étiez pas forcément venue pour faire cela. Mais ce qui est toujours intéressant, moi, il y a une phrase, vous savez bien, on pourrait traverser la vie avec une dizaine de phrases simplement. Et moi, il y a une phrase que je cite en permanence, parce que je l'adore, parce qu'elle est simple, elle est compréhensible par tout le monde, c'est « Un homme, c'est son époque ». Bon, ouais. Et bien si j'avais 18 ans, sans doute Aurore, que je penserais comme vous. Et si vous en aviez 57 comme moi, vous penseriez sans doute comme moi. Et je trouve que souvent, les vraies différences entre les uns et les autres, elles sont générationnelles. Donc c'est pour ça que j'aime bien écouter les gens de 18 ans comme vous.
Je pense que c'est bien de confronter aussi les visions et d'en apprendre de chacune, parce que si on segmentarise...
Oui, mais je suis d'accord, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? J'ai grandi dans une France qui n'a plus grand-chose avec celle dans laquelle vous avez grandi.
Bien entendu.
Donc, si par exemple je vous dis mademoiselle, il est possible que vous soyez choquée par cela.
Disons que quand j'étais plus jeune, c'était le cas. Donc, c'est vrai que maintenant, Enfin, la dénomination a changé, et certainement pour le mieux. Ça ne me choque pas personnellement là tout de suite, mais c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui pourraient...
C'est vrai que souvent, les plus jeunes n'ont plus envie d'entendre ce mot-là qui était, pour reprendre ce mot horrible qui est utilisé à toutes les sauces, stigmatisant. En tout cas, merci Aurore, parce que vraiment, je pense que ça va bien se passer, vous verrez Aurore. Vous aurez des bons résultats. Et puis si vous nous appelez... si ça marche pas, vous nous appelez, parce que Greg Caranoni, il vous aidera.
Ah bon, je le ferai avec plaisir, mais je sais pas comment.
Il vous aidera, parce que c'est le plus jeune d'entre nous, donc c'est lui qui sait encore comment ça se passe en fac, le plus proche en tout cas.
J'y penserai.
Merci Aurore. C'était intéressant, Aurore, Greg.
C'était très, très intéressant.
Évidemment, c'était très intéressant. Yann Boucherie est en train d'arriver dans le studio, mais comme il est 13h48...
Un peu tôt, oui.
Pas,
je me demande où vous venez faire le flash à 13h48.
Non, je prépare les choses, vous verrez.
Ah d'accord, j'avais peur qu'il y ait un événement important. Mais il y a quand même Gabriel Attal qui a dit cette chose importante. Un rien peut faire basculer la situation, a-t-il dit après le Conseil Défense Sanitaire. Un rien peut faire basculer la situation. Je ne sais pas comment il faudra interpréter cela, Greg. Il n'y a pas beaucoup de musique, en revanche, aujourd'hui.
Pour rester sur les étudiants, j'ai une musique qui va vous faire plaisir, Les Compagnons de la Chanson, par exemple.
Ça, c'est bas comme attaque.
Alors que mon époque, c'était plutôt Daft Punk et l'Auberge Espagnole, vous voyez.
Le dernier compagnon de la chanson, Fred Mella, est décédé en 2020. Je crois qu'il avait passé 92 ou 93 ans.
Vous avez une anecdote sur les Daft Punk ?
Sur Daft Punk, ils ont un joli casque.
Très bien.
Mais c'est vrai que les paroles sont intéressantes, en tout cas, de ce que vous venez de me faire écouter. Christine et Hervé vont nous parler de Richard Berry. Je trouve que c'est un très très bon sujet. Un téléfilm a été déprogrammé sur France 3. A tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud. 13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Le 12 février dernier, France 3 devait diffuser La Loi de Damien, téléfilm porté notamment par Richard Berry. L'acteur accusé de viol et d'agression sexuelle par sa fille Colline Berry incarne un avocat. Alors que Richard Berry est dans la tourmente depuis plusieurs semaines, la chaîne a finalement décidé de remplacer ce téléfilm par La Loi de Julien, avec Jean-Pierre Darroussin. Laurent Tessier, je ne dis pas de bêtises.
Vous ne dites pas de bêtises.
Réponse de la chaîne, afin de ne pas perturber les démarches juridiques dont la presse se fait l'écho entre Richard Berry et sa fille, et en accord avec les ayants droit, France 3 décale la programmation de la loi de Damien et le remplace par la loi de Julien. Et ça, c'est donc la réponse de la chaîne. Quel est votre avis ? Christine est avec nous. Bonjour Christine.
Oui, bonjour Pascal Pro.
Bonjour Christine.
Voilà, je suis bien contente que vous ayez saisi ce sujet, donc sujet à débat, parce que j'étais vraiment très très étonnée vendredi dernier, donc, de constater la suppression. Enfin, sur le coup, j'ai pas pensé à la suppression. Je me suis dit, bon, je me suis peut-être trompée de semaine. J'ai consulté le programme. Non, je m'étais pas trompée. Et donc, étonnée aussi le lendemain qu'il n'y ait pas d'écho, pas d'explication. Et en fait, il faut attendre aujourd'hui votre émission pour constater que quand même, ça fait débat. Et je me pose la question, mais de quel droit la chaîne se substitue-t-elle à la justice ? Moi, je voulais voir...
Vous l'interprétez comme ça ?
Ah oui, moi je voulais voir Richard Berry en tant que l'acteur, parce que j'aime cet acteur, mais peu m'importe, enfin, ça me regarde même pas ses affaires personnelles, sa vie privée, et je vois pas pourquoi, donc encore une fois, la FR3 ou même peut-être les plus hautes sphères, CSA, je ne sais pas, supprime comme ça, sans prévenir, sans rien, c'est d'office, on supprime.
Mais par exemple, le communiqué de la chaîne qui dit on ne veut pas perturber les démarches juridiques.
Oui, mais attendez, le communiqué, c'est aujourd'hui que vous l'exposez. Mais vendredi, je ne sais pas, à ce moment-là...
Ils ont essayé effectivement de le faire un peu en loose-dé.
Voilà. FR3 aurait pu mettre un bandeau, hein, on n'a pas perdu au change, je dois dire, il y avait Daroussin, mais peu importe, ça c'est un autre sujet. Ils auraient pu mettre un bandeau explicatif, comme quoi, ce que vous venez d'exposer, hein, mais là, non, sans tambour ni trompette, on supprime d'office.
Alors Hervé Temim était hier sur France 5 d'ailleurs, et voilà ce qu'il a dit: il y a aujourd'hui une telle peur, une telle trouille de la réaction des réseaux sociaux. Je précise qu'Hervé Temim est l'un des avocats de Richard Berry et l'autre étant Sophie Obadia. Donc il a dit ceci: il y a aujourd'hui une telle peur, une telle trouille de la réaction des réseaux sociaux, de la réaction peut-être compréhensible d'une partie du public, que vous savez ce qui s'est passé vendredi soir ? Un film dans lequel Richard Berry n'est qu'acteur a été déprogrammé de France 3 au dernier moment. C'est ça le respect de la présomption d'innocence. Voilà comment on lapide des gens, alors que Richard Berry, il a aujourd'hui un très grand nombre de soutiens. Voilà exactement ce qu'a dit son avocat Hervé Temim.
Voilà, ben moi je peux m'ajouter comme soutien à Richard Berry, parce que je trouve ça vraiment lamentable. Je ne veux pas prendre parti, ce n'est pas du tout le problème.
Les patrons, en l'occurrence, ou le service public, ont peur de la réaction des réseaux sociaux. Et
on manque de courage, quoi.
C'est pas la chose la mieux partagée, chère Christine.
Ils n'ont pas à s'occuper des réseaux sociaux, quoi.
Merci parce que votre témoignage est vraiment très très intéressant. Alors je ne sais pas si Jacques est d'accord avec vous, Jacques qui est chef d'entreprise et qui habite Paris et qui écoutait Christine. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui, bonjour. Bonjour Pascal. Je suis pas tout à fait d'accord. Et en même temps, moi, je respecte infiniment la présomption d'innocence. Donc je comprends Hervé Temim, même s'il est un peu jugé parti et étant défenseur de Richard Berry, on comprend qu'il est plutôt à le défendre. Donc bon, sa parole, il faut la mettre. Mais sur le fond, je comprends. Et en même temps, vous voyez, je respecte la présomption d'innocence et je comprends complètement la décision de France 2. Pourquoi ? Parce que je pense qu'on est à un moment très particulier de notre histoire, comme souvent quand il y a des thématiques sociétales extrêmement fortes. Et je pense que vous êtes comme moi, les bras m'en tombent quand j'entends qu'il y a 10% d'inceste. Donc on est à un moment où on découvre des énormités, des monstruosités de notre société. Et à chaque fois que la société évolue à un moment et est confrontée à des situations aussi fortes, aussi dramatiques, le balancier a tendance toujours à aller un petit peu trop loin dans l'autre sens. Et donc je comprends, si vous voulez, que si on ne veut pas bafouer, ne pas écouter la souffrance monstrueuse accumulée depuis des décennies par tous ceux qui souffrent d'inceste, je préfère quelque part que cela, quelque part, on les écoute en respectant peut-être pas la présomption d'innocence. Donc je comprends.
Et ça, c'est, là, vous mettez le doigt dans un engrenage. S'il faut écouter, comment dire, tout le... Parce que sur ceux ou celles qui parlent, on peut imaginer que tout le monde ne dit pas forcément la vérité, vous en conviendrez. Et je parle surtout pas de l'affaire Berry, que je ne connais par définition pas. Bon. Et si vous dites que, au nom d'une parole qui s'est libérée, ce qui est évidemment une très très bonne chose, que les victimes puissent parler, ce qui est encore une très très bonne chose. Mais quand ce nom-là, la présomption d'innocence doit tomber,
non, mais elle tombe
Jacques,
pas, elle
c'est,
tombe,
non, c'est compliqué elle quand tombe. Même. Oui, c'est compliqué non, parce que la présomption d'innocence, elle est pour vous, pour moi. C'est-à-dire que vous avez 65 ans. Je ne sais pas si vous avez des enfants, mais si vous avez des enfants qui vous accusent demain de viol, vous aimerez peut-être que la présomption d'innocence, elle joue pour vous.
Non, mais vous touchez parfaitement du doigt, Pascal, la difficulté qu'on traverse actuellement. C'est-à-dire que c'est pas simple, c'est extrêmement compliqué. C'est pas simple, pourquoi ? Parce qu'on découvre ces énormités-là.
On va continuer après le flash de 14h, parce que Yann Bouchery, qui était arrivé en avance à 13h48, finalement, il est également là à l'heure, et il va pouvoir nous donner les dernières informations. A tout de suite, Jacques. Restez parce que c'est intéressant. A tout de suite.
Oui, à tout de suite.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
À la seconde près, il est 14h. Yann Bouchery, avant de retrouver Jacques tout à l'heure pour poursuivre sur ce qu'il nous disait sur le dossier Richard Berry. Yann Bouchery pour le rappel des titres.
Bonjour à tous. Jean-Claude Gaudin placé en garde à vue dans les locaux de la gendarmerie de Marseille dans le cadre d'une information judiciaire ouverte pour détournement de fonds publics. Des perquisitions ont été menées hier au domicile de l'ancien maire. Les investigations conduites depuis plusieurs mois par un juge d'instruction porteraient notamment sur l'emploi de plusieurs de ses très proches collaborateurs. Ils seraient restés membres de son cabinet alors qu'ils avaient dépassé l'âge obligatoire de la retraite depuis plusieurs années. Une première médicale en France, une greffe d'utérus a permis la naissance d'un bébé. Micha, une petite fille d'1,8 kg, a vu le jour vendredi dernier à l'hôpital Foch à Suresnes, en région parisienne. En 2019, la mère âgée de 36 ans avait reçu l'utérus de sa propre mère, alors âgée de 57 ans. Le nouveau-né et sa maman se portent bien selon la formule consacrée. Encore quelques heures pour les généralistes. Ils ont jusqu'à ce soir minuit pour réserver leur dose de vaccin auprès de leur pharmacie. C'est à partir du 25 février que les médecins de famille pourront administrer le vaccin AstraZeneca. Pas de cas de Covid parmi les joueurs du 15 de France. C'est le résultat des tests PCR effectués hier après l'infection confirmée du sélectionneur Fabien Galthié. En revanche, son adjoint William Servat, lui aussi, a été déclaré positif ce matin. Les deux hommes sont à l'isolement, mais ne présentent aucun symptôme. Le tennis, c'est la sensation il y a quelques minutes à l'Open d'Australie. Raphaël Nadal vient de se faire sortir en 5 manches par le grec Tsitsipas après avoir mené 2-7 à 0. Raphaël Nadal éliminé donc à Melbourne en quart de finale. Les courses, l'arrivée provisoire du quintet à Cagnes-sur-Mer. Il fallait jouer le 7. Ensuite, il y a photo entre le 6 et le 15. Puis le 3 et le 8. La météo, le soleil va l'emporter cet après-midi sur les trois quarts du pays. Seule une petite partie nord conservera un ciel assez nuageux de la Bretagne à l'Île-de-France jusqu'à la Lorraine. Mais les averses se limiteront aux côtes. Les températures, elles restent douces de 9 à Langres, à 19 à Biarritz. 14h02, Pascal Pro, c'est à vous.
Merci Yann Bouchery. Je rappelle donc que le 12 février dernier, France 3, devait diffuser la loi de Damien, téléfilm porté notamment par Richard Berry, l'acteur accusé de viol et d'agression sexuelle par sa fille Colline. Alors que Richard Berry est donc dans cette affaire-là, France 3 a décidé de supprimer ce téléfilm et de le remplacer par un autre téléfilm joué par Jean-Pierre Daroussin qui s'appelle La loi de Julien. Et la réponse de la chaîne, c'est afin de ne pas perturber les démarches juridiques dont la presse se fait l'écho entre Richard Berry et sa fille, France 3 décale la programmation. Donc on s'interroge sur la... l'innocence, la présomption d'innocence. Et nous sommes donc avec Jacques qui dit qu'il faut laisser tomber la présomption d'innocence dans ces cas-là. Bah, c'est ce que vous avez dit d'ailleurs. Vous avez
oui, le droit. Non, parce que c'est ça.
Alors, et moi, je vous ai dit, si une de vos filles vous dit que vous l'avez violée, vous serez peut-être bien content. Cette présomption d'innocence joue volontairement, je suis provocateur.
Non, tout à fait. Mais en même temps, c'est des sujets extrêmement difficiles et compliqués. Mais admettez qu'on est à un moment particulier de notre histoire sur un phénomène sociétal qui est monstrueux. On découvre tous qu'il y a un pourcentage d'inceste qui est monstrueux au XXIe siècle dans notre société française. Donc, par rapport à ce drame absolu que ça représente, vous rendez
compte. C'est pas 10%, c'est 10% d'enfants qui auraient été abusés sexuellement. Oui, ça ne veut pas dire d'inceste.
Complètement d'accord.
Ça peut être des gens qui ne sont pas de la famille. Oui, mais c'est énorme, c'est 6 millions de gens.
Même chiffre à un moment donné, des centaines de milliers d'enfants.
Mais bien sûr, c'est 6 millions d'enfants. Bien sûr.
Bon. Et ben, donc, par rapport à ce phénomène-là, colossal, ce nombre monstrueux, c'est très compliqué pour une chaîne de dire qu'elle a l'impression de bafouer ces paroles-là. Et je pense qu'elle porte la parole de cette chape de plomb qui a coulé pendant des années et des décennies. Et ben moi, je me rends compte que tout en respectant complètement la présomption d'innocence, quelque part, c'est peut-être la plus mauvaise des solutions, mais quelque part, je comprends cette réaction qui, quelque part, est une main tendue à toutes ces victimes. C'est comme ça que je le prends.
Et je votre avis, Jacques, et cet avis s'entend. Moi, je fais le parallèle, même s'il faut toujours éviter les comparaisons, mais il y a un journaliste suisse célèbre qui s'appelle Darius Rochebain, et qui est passé cet automne à LCI, la chaîne d'info de TF1. Ouais. Et il a été, dans un grand papier suisse, accusé d'agression sexuelle. En l'espèce, c'était à la fois envers des hommes et des femmes. Bon. C'était un grand papier. Il y a la justice, je ne suis pas sûr qu'elle soit saisie, qu'elle enquête, mais c'était un papier journalistique. Et de la même manière, LCI a retiré immédiatement ce présentateur. Alors, chacun en pense là encore ce qu'il veut. On voit bien que la présomption d'innocence, ben elle ne joue pas dans le sens qu'il y a déjà des conséquences pour celui qui est accusé.
C'est vrai, c'est terrible, mais c'est le prix à payer pour une société qui a tué pendant des décennies des horreurs.
Je suis d'accord avec vous, mais quand, et là encore, je ne connais absolument rien de l'affaire Rochebain, mais quand vous êtes accusé à tort, c'est et terrible. Que votre vie professionnelle, c'est le cas pour Richard Berry, et c'est le cas aussi pour Darius Rochebain, est entamée, vous pouvez être dans une situation quand même compliquée, parce que si vous êtes innocent, je le répète, vous vous dites, le monde me tombe sur la tête. Le ciel me tombe sur la tête.
Non, c'est très bien. Il y a une chose, si je peux me permettre, Pascal, que je voudrais dire aussi. Je trouve qu'on devrait essayer d'imaginer un autre mot que dénonciation. Parce qu'il est porteur à juste titre d'une connotation extrêmement péjorative, puisque ça rappelle les dénonciations pendant la dernière guerre. Je trouve que dénonciation, il faudrait trouver un terme de l'acte civique qui consiste, ou citoyen qui consiste à dénoncer un pédophile ou dénoncer un enfant qui est martyrisé. Il faudrait qu'on trouve un autre terme.
C'est possible, Jacques. En tout cas, merci pour votre témoignage parce que c'était très intéressant. On parlera après la publicité, évidemment, de l'affaire Berry qui fait beaucoup réagir. Et cette déprogrammation, en plus, je le dis, cette expression est un peu triviale, mais France 3 a fait ça en loose day. Parce que samedi, dimanche, moi j'étais averti de cela, samedi, on ne faisait pas d'émission, mais samedi, dimanche, personne n'en a parlé. Non, et on est mercredi, exactement. On en parle aujourd'hui parce que depuis deux jours, on en parle simplement. Lundi, mardi, on a commencé à en parler.
En loose day.
En loose day, ça se dit.
Langage de Jones.
Oui, non, mais ça ne va pas avec votre âge, mais ça se dit, bien sûr.
Mais attendez, mais ça va mon âge. Mais attendez, je vais me lever, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais monsieur Caranoni...
Vous êtes quand même assis très vite. Hein.
Oui, parce que,
je suis baraqué.
En fait, je travaille pour votre débrief.
Ah, mais formidable.
C'est pour ça, je vous
êtes généreux.
Des petites séquences. Acteur. Des petites séquences. Acteur studio.
M comme magnifique, M comme merveilleux, M comme magique, M comme Mbappé.
Le but triplé de Kylian Mbappé sur la pelouse du Camp Nou.
C'est une petite revanche pour tous ceux qui ont craché dessus pendant des semaines et des semaines. Oui. Laissez ce garçon grandir, il a le droit d'avoir des moments où il n'est pas bien. Merci Kylian, ça fait 4-1 et voilà.
Un triplé hier soir à Barcelone, victoire 4-1 du PSG en 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Peut-on dire que le Paris Saint-Germain est aux portes des quarts de finale? Faut-il rester prudent? Bah oui, avec le traumatisme de la remontada. Attendons le match retour, prévient Sylvie sur nos réseaux sociaux. Je dis ça, je dis rien. Kylian Mbappé a pris ses responsabilités, observe Sébastien. Pour Ria, il cherchait encore son match référence en Ligue des Champions avec le PSG. La pression était plus que jamais sur ses épaules. Daniel Prémier aussi, il faut garder la tête froide. Et finalement, notre Eric, ce n'est pas mal quand Neymar n'est pas présent.
Je suis d'accord avec vous. Vous voulez qu'on fasse venir Christian Olivier en 10 secondes dans le studio.
Un honneur.
Eh bien, on va dire par exemple. Ah, il l'avait pas vu, Christian Olivier, les 3 buts d'Mbappé. Ah, il l'avait pas vu.
Venez, ben, Christian.
Alors là, je pense qu'il a, il déboule. Il entend son nom sur le siège. C'était un petit débat qu'on a avec Christian Olivier sur Mbappé. Moi, peut-être. Je disais qu'il allait avoir 3 ou 4 ballons d'or et on avait un petit débat ensemble.
Peut-être que par esprit de contradiction, il ne viendra pas. Peut-être. Connaissant Christian Olivier.
C'est un ami. Bon, merci en tout cas, ami Laurent. On continue l'affaire Berry, si j'ose dire, et on est avec Daniel. Daniel, après la pub, bien évidemment.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
À 14h09, on est avec Daniel. Bonjour. Daniel, sur la déprogrammation, est-ce que ça vous a heurté ?
Ah, ça, je l'ai entendu tout à l'heure dans ma voiture quand aux informations, j'ai fait un bond, je vous dis pas. Je suis absolument mais outrée de voir que maintenant on fonctionne en fonction des réseaux sociaux, de ce que raconte le public, etc. La justice se fait non plus au palais de justice, mais la justice se fait dans la rue. Chacun dit son mot et après les directeurs de chaîne, c'est honteux. On la trouille, alors du coup des programmes pour pas faire d'histoire, en fait on va parler beaucoup plus de la déprogrammation que du film de Richard Berry s'il était passé. Alors je défends pas Richard Berry particulièrement, mais je défends cette nouvelle forme de justice qui est en train de nous tomber dessus depuis quelques années. Ça devient de la schizophrénie, mais où va-t-on si maintenant on va écouter Pierre, Paul, Jacques, le voisin, la voisine, les réseaux sociaux, etc. Pour savoir comment on doit agir et briser peut-être la vie de quelqu'un, on n'en sait rien. Peut-être qu'il a tort, peut-être qu'il a raison, on n'en sait rien. Tant que la justice n'est pas rendue, on ne peut pas dire.
Non, mais elle ne pourra pas être rendue. C'est-à-dire que les faits sont prescrits. C'est ça qui est. Dans l'affaire Richard Berry, c'est terrible. Puisqu'il n'y aura pas de justice.
Oui, mais il y a une enquête quand même qui est faite.
Alors ça, c'est aussi paradoxal. C'est-à-dire que c'est prescrit, mais la justice ouvre des enquêtes. Et j'ai toujours pas compris. Hein. Si vous y arrivez à comprendre, ça fait 3-4 ans que sur des faits prescrits, la justice ouvre quand même des enquêtes. Bon.
Oui, mais je crois que Richard Berry a demandé qu'une enquête soit faite quand
bien
même,
sûr,
parce que
bien
lui,
sûr,
est,
bien sûr.
Il se considère tout à fait comme innocent, et il a demandé que l'enquête soit faite. Donc l'enquête, elle va bien aboutir à quelque chose, puisque la justice a écouté sa fille, l'a écouté à lui, a écouté d'autres personnes, donc la justice va se faire une idée et savoir le vrai du faux. Et ça deviendra public. Il n'y aura pas de procès parce que Richard Berry, s'il est coupable, ne sera pas puni. Si sa fille a menti, elle ne sera pas punie. Mais moi, ce qui me choque et qui me révolte à un point que vous ne pouvez pas imaginer, mais c'est tout d'un coup cette folie où tout le monde décide qu'un tel est coupable, un tel n'est
pas coupable. C'est-à-dire que là, c'est une affaire qui n'est pas banale. C'est une fille qui accuse son père de viol.
Oui, mais elle n'est pas la première quand même à le faire.
Écoutez, moi, j'ai pas souvenir dans l'univers médiatique d'une fille qui dit mon père m'a violé, que ce soit une personnalité.
Voilà. Non, ça,
ah oui, non. Voilà, c'est quand même très difficile. Et c'est ce qu'on dit depuis le départ. Soit c'est vrai, c'est horrible. Soit c'est vrai, ce n'est pas vrai, c'est horrible.
Dans
les deux cas, mais Richard Berry, c'est vrai que quoi qu'il arrive, sa carrière aujourd'hui, parce que de la même manière que France 3, le directeur de France 3 refuse de programmer Richard Berry, peut-être que vous allez avoir des directeurs de théâtre qui vont dire non.
Oui, non, mais c'est ça.
On ne prend plus Richard Berry. Et puis des directeurs du casting qui vont dire non.
Voilà.
Des producteurs de ciné. C'est... Donc tu es dans une situation qui est terrible. Terrible, terrible.
Ah, mais c'est ça, absolument.
Et je ne donne évidemment aucun avis là-dessus. Je n'en ai pas. Je le précise parce que là aussi, parfois, les paroles sont interprétées.
Oui, moi, j'ai pas d'avis non plus. Moi, ce qui me choque et qui me révolte là depuis quelques années, c'est cette façon que les gens décident quand elle est coupable, qu'on ne doit plus lui parler, qu'on ne doit plus.
Oui, mais c'est pas qu'ils décident d'ailleurs. C'est pas qu'ils décident, mais c'est induit. C'est conséquence.
Oui, voilà, c'est induit par c'est induit par leur comportement, ce qu'ils racontent, et tout le monde ça prend pour tout le monde prend ça pour un racontant. Moi, quand j'ai entendu ce problème, bon, ben, je me suis dit encore un, on verra bien s'il a tort ou s'il a raison. Mais j'ai pas décidé que je boycottais Richard Berry pour le moment.
Merci Daniel.
Il n'est pas coupable.
Eh bien, merci beaucoup. Je disais, comment faire réagir l'ami Christian Olivier que je connais par cœur? Et il a été encore plus subtil et inattendu.
Subtil, vous auriez pu dire sournois, mais très bien.
Non, subtil, parce qu'il n'est pas venu. Non, il m'a envoyé un petit tweet qu'il a tweeté hier soir. Et il a écrit ceci. Ceux qui en sont ce soir, c'était donc hier, Mbappé, sont aussi caricaturaux et disons-le grotesques que ceux qui l'ont démonté sans retenue et aveuglement durant sa mauvaise passe. On est bien chez les fous, mais c'est l'époque, a-t-il écrit. Donc il a réagi, il nous écoute. Je veux vérifier à chaque fois s'il nous écoute. Hervé, bonjour, pour parler de Richard Berry. Et puis on essaiera d'appeler peut-être, je ne sais pas s'il est dans l'avion ou pas d'ailleurs, l'ami Georges Heureux qui était hier au Camp Nou et qui a hurlé sur ce...
Quoi,
hurlé.
L'appel est lancé en tout cas.
Qui a crié sa joie sur le troisième but de Mbappé qui était le quatrième du PSG. Hervé, bonjour. Richard
bonjour,
Berry.
Pascal. Bonjour.
Alors, c'est vous qui allez synthétiser ce dossier, vous êtes le dernier sur ce dossier.
Formidable. Alors, moi, aujourd'hui, je ne comprends pas qu'on fasse pas la part des choses entre l'homme et l'artiste. Ok, monsieur Berry, il est dans une affaire, on ne sait pas s'il est coupable, on ne sait pas s'il est pas coupable, mais dans tous les cas, ça reste un excellent acteur. Pourquoi aujourd'hui on l'enlève? En quoi ça change quelque chose de l'enlever? Je comprends pas. Regardez l'affaire Polanski, un excellent réalisateur.
Non mais l'affaire Polanski, ça, elle est encore différente parce que c'est une affaire qui est dans laquelle Polanski a lui-même reconnu les faits, avait été condamné et avait fui les États-Unis. Donc là, c'est dans une affaire dans laquelle Richard Berry il nie les faits. Vous voyez, c'est complètement différent.
Sans même parler de faits, on parle de professionnels, on parle de d'acteurs, on parle de réalisateurs. Ou si bien, regardez Bertrand Cantat.
Bertrand Cantat, il peut plus. Alors, pardonnez-moi, je vais vous dire mon avis. Que Bertrand Cantat ne monte plus sur scène, je trouve ça très bien. Voilà, quand tu as fait ce qu'il a fait, c'est un drame absolu. Tu as la pudeur de vivre caché. Voilà exactement ce que je pense. Je ne peux pas vous dire autre chose, c'est exactement ce que je pense.
Tu vis,
mais tu ne montes pas sur scène. Voilà.
Ça reste malgré tout un excellent chanteur.
Oui.
Et ce n'est pas le chanteur qui a tué sa femme, c'est l'homme.
Oui. Vous savez, Jouvet disait autant vaut l'homme, autant vaut l'acteur. Et moi, j'aime bien ça. Autant vaut l'homme, autant vaut l'acteur. Et je vais vous dire, c'est vrai en tout. Autant vaut l'homme, autant vaut le journaliste. Autant vaut l'homme, autant vaut le médecin. Maintenant, ça m'est personnel, je vous donne mon avis.
Bien sûr, comme je vous donne le mien aujourd'hui.
Oui.
Voilà, moi, ce que je comprends pas, c'est qu'on fasse pas la part des choses entre l'homme...
Mais l'affaire Berry, c'est pas l'affaire Cantat, vous voyez. Même, j'imagine, les supporters de Berry qui nous écoutent, ils doivent se dire, mais vous comparez Richard Berry à Cantat ou à
compare,
des affaires...
On compare
plus ou moins.
Pas les personnages, je compare les faits. C'est-à-dire qu'ils ont un problème dans leur vie personnelle et on en fait un pataquès dans leur vie professionnelle.
Merci Hervé, c'était la conclusion et c'était fort intéressant ce que vous nous disiez. Alors, la mise en fourche est venue.
Bonjour.
L'homme qui défend le Paris Saint-Germain. J'espère que vous allez me rendre hommage.
Ah mais toujours.
Je vous dis que votre PSG, sans Neymar, il est meilleur.
Ah, on va réussir à démonter Neymar qui n'était pas là, c'est formidable.
Mais vous pensez que c'est un hasard si le PSG a fait son meilleur match de son histoire sans Neymar?
Ah non, il y a beaucoup d'explications, mais qui ne tiennent à mon avis pas, cela.
Ah oui, parce que vous ne voulez pas voir. Vous êtes anti-duché de Neymar. Et la vérité, c'est que le Mbappé, il est meilleur sans Neymar. Qu'est-ce que je dis? 14h18. 4... Oh là là, Christian Olivier arrive. On refait le match. Je vais être prisonnier. Ils arrivent, à tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Greg Caranoni,
ça va Pascal?
Ça va, mais est-ce qu'on nous voit en vidéo? Parce que je suis pris en tenaille.
Bien
c'est
sûr.
L'émission qui s'appelle Les auditeurs ont la parole et sont arrivés Christian Olivier, à mon sens, qui n'est pas un auditeur.
Sur RTL.fr ou l'application RTL
et
pour regarder en vidéo.
Philippe Sansfourche, qui n'est pas un auditeur. Voilà, ce sont des professionnels de la profession. Ils sont venus m'ennuyer. Bon. Qu'est-ce qui se passe, monsieur Olivier? Pourquoi vous êtes dans ce studio?
Mais écoute, je vous entends parler de Mbappé et vous savez que ce n'est pas un sujet très sport. C'est un sujet également sociétal. C'est-à-dire qu'il faut aimer le temps long de temps en temps. Le temps long pour tout, mais également pour le football. Et pour tous ceux qui nous écoutent, je pense que ceux qui nous écoutent sont d'accord avec moi pour dire que Mbappé est un formidable joueur de football.
Mais... Allez plus loin là, vous êtes trop près de moi. Il faut se mettre à au moins 2 mètres. Changez de micro.
Mais quel âge a-t-il Mbappé, Philippe Sanfourche, Pascal Praud ?
Il a 22 ans.
Bon. Vous avez des enfants ?
Oui.
Mais pourquoi faut-il changer de micro ?
Parce qu'il faut être plus loin. Voilà, vous êtes trop près, vous n'avez pas votre masque, donc il faut faire très attention. Mettez-vous là.
Vous
très
avez
bien.
Des enfants, Pascal
oui.
Praud.
Oui, et alors ?
Bon, à 22 ans, vous avez eu 4 filles.
Oui.
Peut-être que l'une d'entre elles ou deux d'entre elles, à 22 ans, était déjà, ça ne me regarde pas, mais... comment dire, installée socialement.
Oui.
Et elle commençait à réussir peut-être dans la vie.
Mais qu'est-ce que vous voulez dire ?
Ne jamais s'enflammer.
Ah oui, bah vous ne vous enflammez pas avec Mbappé depuis le départ.
Le temps long,
le
temps long.
Non, mais c'est...
Vous réagissez comme un supporter.
Je dis que c'est un très grand joueur.
Mais personne ne dit le contraire.
Ah.
Simplement, il faut laisser le temps à Mbappé de continuer de grandir. Quand les journalistes dont vous faites partie lui pronostiquent 3 ballons d'or, vous ne lui rendez pas service. Quand on dit qu'hier il a été extraordinaire, oui, mais attendons le match suivant. Lui-même, en fin de match, dit « J'ai été mauvais pendant 2 ou 3 mois, il faut que je me remette en cause ». Écoutez-le.
Non mais... Vous me manquez, Christian, et je vais revenir dans Orphel Match et dans le multiplex. Philippe Sanfourche.
Moi, j'aime beaucoup la sagesse du propos de Christian Olivier, mais on ne peut pas traiter Kylian Mbappé comme n'importe quel quidam. C'est pas possible. Ce garçon est identifié depuis son plus jeune âge comme un génie du jeu.
Un génie.
Il
déjà,
est au-dessus, mais il est au-dessus.
Déjà un génie.
Il est au-dessus
ça sort
de toutes
du vocabulaire
les catégories.
Raisonnable.
C'est pas un hasard.
C'est un excellent footballeur, mais déjà le mot génie.
Mais Christian,
vous êtes déjà
sa carrière
dans l'exagération.
Peut s'arrêter aujourd'hui qu'il est déjà champion du monde, qu'il a déjà réalisé des choses que des joueurs de 30, 35 ans ne réaliseront jamais.
Mais sans aucun doute.
Il a été adoubé à 17 ans par Pelé.
Et alors ?
Mais alors, parce que les grands se reconnaissent entre eux. Les grands se reconnaissent entre eux.
Vous êtes extraordinaire. Et alors, c'est le meilleur joueur du monde de tous les temps. Pelé, il dit, c'est mon fils.
Voilà.
Et alors ?
Alors, écoutez-moi, quel a été le meilleur match de Mbappé ?
C'est les auditeurs ont la parole.
Depuis celui d'hier soir.
Bon, Cédric est là. Cédric veut nous dire.
Il y a 2 ans.
C'est les auditeurs. Cette émission. Cédric, parce que là, c'est des manches micro.
C'est l'époque. C'est l'époque qui veut ça.
Cédric, vous avez une minute. Dites-nous un petit mot à Christian et à l'ami Sanfourche.
Eh ben bonjour Pascal et bonjour Jean-Raphaël à tout le monde.
Bonjour Cédric.
Alors en fait j'anime une émission foot sport sur une web radio et il y a 2 semaines de ça je disais qu'on en mettait trop dans la figure à Kylian Mbappé parce qu'il était malade, parce qu'il revenait de blessure, etc. Et il faut lui laisser du temps, il faut lui laisser le temps de grandir. Le comparer aujourd'hui à Zidane, à Cristiano Ronaldo, à Messi, etc. C'est pas une bonne chose pour lui. Hier, il a fait un match extraordinaire. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ensuite, je suis d'accord aussi avec vous, Pascal, dans le sens où il faut qu'il, comment dire, j'ai l'impression que Mbappé, pour exister, il doit être loin de Neymar et il doit être loin de Di Maria, parce que Paris joue pas pareil. Parce qu'on ne cherche pas automatiquement Mbappé quand il y a Neymar ou quand il y a Di Maria. Et du coup, ça prive Kylian Mbappé d'une expression un peu plus appuyée dans le jeu. Vous voyez ce que je veux dire ?
Merci Cédric. Je vous coupe un peu parce qu'il va avoir le débrief dans une seconde. Mais c'est intéressant. C'est vrai que la question va se poser de Neymar. Parce que est-ce que hier soir le PSG aurait aussi bien joué, aurait gagné sans doute parce que Barcelone ne met pas un pied devant l'autre. Mais est-ce que le PSG, moi ce qui me frappe, ce n'est pas le résultat, c'est la qualité de jeu et le collectif du PSG. Et je maintiens que quand Neymar est là, Paris joue pas.
Vous êtes des fous.
Bah, c'est possible.
Vous êtes des fous. Vous êtes en train de m'expliquer que les Beatles auraient été meilleurs sans McCartney et les Rolling Stones. Sans
Keith
Richards. En fait, c'est-à-dire
que
vous
mes amis du foot, vous me manquez.
Mais non.
Vous pensez que le PSG aurait si bien joué hier soir ?
Neymar, il n'a pas gagné la Ligue des Champions avec Messi et Suarez, avec le Barça en 2015, en étant rayonnant, le meilleur buteur de
vous
la Ligue des Champions.
Vous entendez ce que je vous dis ?
Bien entendu.
Est-ce que le PSG a réussi ? Enfin, c'est quand même pas un hasard si le PSG a fait son meilleur match de la saison sans lui, quand même.
Mais peut-être qu'avec Neymar, ils en auraient mis 7.
Donc en fait, on ne pourra pas...
Voilà l'exagération.
Voilà,
qu'avec Neymar, le PSG en aurait mis 7.
Ah,
on
oui.
est
le
dans
Bayern
l'exagération.
Le Bayern n'a pas mis 8 au
Barça ?
Enfin, l'époque. Le problème, quand
c'est
même,
l'époque.
Convenez que le problème se pose de est-ce que le PSG est meilleur avec
c'est
que
pas
ou
un
sans
problème,
Neymar,
c'est une vraie question. C'est-à-dire, bon. Comment
voilà.
faire
non, en sorte
d'additionner
ses talents ? C'est pas le PSG avec ou sans Neymar. C'est est-ce que Mbappé est meilleur avec ou sans Neymar?
Oui, enfin, ah, c'est une sous-texte.
Ah, mais il y a une sacrée nuance.
La première, oui, mais c'est, les deux questions existent. Les deux questions existent. Bon, en tout cas, je vous aime. Je voulais vous le dire.
C'est réciproque.
Et vous me manquez. Nos débats nous manquent. Et l'ami Laurent Tessier va faire ce petit débrief. Mais c'est vrai que 3 minutes d'on refait le match, ça, j'ai adoré.
Merci de votre invitation.
Merci à vous. Laurent.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission par Laurent Tessier.
Je travaille pour votre débrief.
Parole aux étudiants aujourd'hui dans l'émission. Et une question vous a perturbé, Pascal. Comment drague-t-on au 21e siècle? Et c'est vrai que depuis plusieurs mois, comme dirait Victoire...
La vie sociale est vraiment mise sur pause depuis maintenant un an.
Et oui, comment ça se passe pour Éléonore et son copain?
Moi, j'ai de la chance parce que j'habite dans la même ville que mes parents. En fait, j'ai pris un appartement cette année. Et du coup, ils habitent pas loin de chez moi, donc...
Ah oui, ça c'est ce qu'il y a de mieux. C'est-à-dire que l'avantage des parents sont les inconvénients. Pour le linge, on rentre à la maison faire son linge, on rentre faire repasser, et puis quand on s'ennuie un petit coup de blouse, on va faire un câlin à maman. Donc ça, c'est... Alors vraiment, Léonore, je connais.
Et beaucoup de parents vont se reconnaître dans ce témoignage. Allons encore plus loin.
J'ai beaucoup d'amis, j'ai des retours de mes amis et je sais comment ils font.
Par exemple, c'est-à-dire
ils sont à Paris, il y en a beaucoup qui sont sur Tinder et apparemment ça marche très bien quand même.
Et oui, 21e siècle, il existe des applications. Tiens, comment ça marche Tinder?
Quand tu es sur Tinder, comme vous dites, et que tu es par exemple chez tes parents, la première fois que tu rencontres une fille, tu l'emmènes généralement au bar, au cinéma, au resto, pourquoi pas. Tu vas pas l'inviter directement chez toi si tu habites chez tes parents.
Non, c'est gênant.
Ouais. C'est gênant.
Non, c'est très gênant. On imagine un peu la scène. Tiens, comment ça se passe aussi du côté de Victoire?
J'étais avec mon copain l'été dernier. On va dire que ça s'est fait durant l'été, donc c'était bon parce que entre deux confinements.
C'était bon moment, c'est ce que vous voulez dire.
Non, mais c'était entre deux confinements, donc du coup, ça a pu se faire.
Bah oui, quand même, Pascal. Allez, on parle beaucoup d'une application, vous l'avez entendu. Tinder, mais attendez, qu'est-ce que c'est que ce Tinder?
On met une photo et puis on peut swiper.
Ça veut dire quoi, swiper?
C'est-à-dire balayer avec son doigt, quoi. Il y a quelqu'un qu'on trouve beau, ben on appuie sur le profil, quoi, en gros, et si l'autre a aussi appuyé, ça fait un match.
On
match, comme on dit chez les jeunes. Et dans les auditeurs, la parole, nous sommes très pressés, comme notre présentateur des Flash, Yann Boucherie.
Bon, Yann Boucherie est en train d'arriver dans le studio, mais comme il est 13h48,
un peu tôt,
je me demande où vous venez faire Flash. À 13h48.
Non, je prépare les choses, vous verrez.
Préparons les choses tous ensemble. Et à force de parler des jeunes, Pascal change son discours, sa façon de parler.
France 3 a fait ça en loose day.
En loose day.
En loose day, ça se dit.
Langage de jeunes.
Oui, non, mais ça va pas avec votre âge, mais ça se dit, bien sûr.
Mais attendez, ça va mon âge. Mais attendez, je vais me lever, mais qu'est-ce que ça veut dire?
Vous êtes quand même assis très vite. Hein.
Oui, parce que
je suis baraqué.
Appelez-le désormais. Madame Irma également, Pascal nous avait prévenu avant l'8e de finale aller entre Barcelone et le PSG.
Barcelone, ils mettent plus un pied devant l'autre.
Et ouais, résultat. Le triplé pour Kylian Mbappé, 4-1, victoire contre Barcelone. Allez, le débrief pour aujourd'hui, c'est terminé. On se quitte avec une chanson de circonstance pour Mbappé.
Bravo. Bravo Laurent. Flavie Flamand dans une seconde. Elle est là, Flavie?
Bien sûr, elle sera là.
14h28. Merci, messieurs Sanfour chez Olivier. Vous revenez quand vous voulez.
À bientôt.
Pascal Praud, les auditeurs ont la parole sur RTL.